Aristote, Morale à Eudème, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Livre 1, Du bonheur, chapitre 1er. Sommaire. Du bonheur, des causes du bonheur. Ces causes sont ou la nature ou l'éducation ou la pratique et l'expérience. Elles peuvent être aussi ou la faveur spéciale des dieux ou le hasard. Le bonheur se compose surtout de trois éléments, la raison, la vertu et le plaisir. Paragraphe 1. Le moraliste qui à Délos a mis sa pensée sous la protection du dieu a écrit les deux vers suivants sur le propylée du Latoon, en considérant, sans doute, l'ensemble de tous les avantages qu'un homme à lui seul ne peut jamais réunir complètement, le bien, le beau et l'agréable. Le juste est le plus beau, la santé est le meilleur, obtenir ce qu'on aime est le plus doux au cœur. Nous ne partageons pas tout à fait l'idée exprimée dans cette inscription. Et, suivant nous, le bonheur qui est la plus belle et la meilleure de toutes les choses en est aussi tout à la fois la plus agréable et la plus douce. Paragraphe 2. Parmi les considérations nombreuses que chaque espèce de chose et chaque nature d'objet peuvent soulever et qui demandent un sérieux examen, les unes ne tendent qu'à connaître la chose dont on s'occupe. D'autres tendent en outre à la posséder et à en tirer toutes les applications qu'elle comporte. Paragraphe 3. Quant aux questions qui ne sont dans ces études philosophiques que de pure théorie, nous les traiterons selon que l'occasion s'en présentera au point de vue qui les rend spéciales à cet ouvrage. Paragraphe 4. D'abord, nous rechercherons en quoi consiste le bonheur et par quels moyens on peut l'acquérir. Nous nous demanderons si tous ceux qui reçoivent ce surnom d'heureux le sont par le simple effet de la nature, comme ils sont grands ou petits, et comme ils diffèrent par le visage et le teint, ou bien s'ils sont heureux grâce à l'enseignement d'une certaine science qui serait celle du bonheur, ou bien encore, si c'est par une sorte de pratique et d'exercice. Car il est une foule de qualités diverses que les hommes possèdent, non pas par nature ni même par étude, mais qu'ils acquièrent par la simple habitude, mauvaise quand ils ont contracté de mauvaises habitudes, et bonne quand ils en ont contracté de bonnes. Paragraphe 5. Enfin, nous rechercherons si toutes ces explications du bonheur étant fausses, le bonheur n'est l'effet que de l'une de ces deux causes. Ou il vient de la faveur des dieux qui nous l'accordent, comme ils inspirent les hommes saisis d'une fureur divine et embrasés d'enthousiasme sous le souffle de quelque génie. Ou bien, il vient du hasard, car il y a beaucoup de gens qui confondent le bonheur et la fortune. Paragraphe 6. On doit voir sans peine que le bonheur ne se trouve dans la vie humaine que grâce à tous ces éléments réunis, ou à quelques-uns d'entre eux, ou tout au moins à un seul. La génération de toutes les choses vient, ou peu s'en faut, de ces divers principes. Et c'est ainsi qu'on peut assimiler tous les actes qui dérivent de la réflexion aux actes mêmes qui relèvent de la science. Paragraphe 7. Le bonheur, ou en d'autres termes, une heureuse et belle existence, consiste surtout dans trois choses qui semblent être les plus désirables de toutes. Car Le plus grand de tous les biens, selon les uns, c'est la prudence. Selon les autres, c'est la vertu. Selon d'autres, enfin, c'est le plaisir. Paragraphe 8. Aussi, l'on discute sur la part de chacun de ces éléments dans le bonheur, suivant que l'on croit que l'un d'eux y contribue plus que l'autre. Les uns prétendent que la prudence est un bien plus grand que la vertu. Les autres trouvent au contraire la vertu supérieure à la prudence. Et les autres trouvent le plaisir fort au-dessus de toutes les deux. Par suite, les uns croient que le bonheur se compose de la réunion de toutes ces conditions. Les autres croient qu'il suffit de deux d'entre elles. D'autres même le trouvent dans une seule. Chapitre 2. Sommaire. Des moyens de se procurer le bonheur. Il faut se proposer un but spécial dans la vie et ordonner toutes ses actions sur ce plan. Il ne faut pas confondre le bonheur avec ses conditions indispensables. Paragraphe 1. C'est en s'arrêtant à l'un de ces points de vue que tout homme qui peut vivre selon sa libre volonté doit se proposer, pour bien conduire sa vie, un but spécial. L'honneur, la gloire, la richesse ou la science. Et, les regards fixés sans cesse sur le but qu'il a choisi, il doit y rapporter toutes les actions qu'il fait. Car c'est la marque d'une grande déraison que de n'avoir point ordonné son existence sur un plan régulier et constant. Paragraphe 2. Aussi, un point capital, c'est de bien se rendre compte à soi-même, sans précipitation ni négligence, dans lequel de ces biens humains on fait consister le bonheur, et quelles sont les conditions qui nous paraissent absolument indispensables pour que le bonheur soit possible. Il importe de ne pas confondre, par exemple, et la santé et les choses sans lesquelles la santé ne pourrait être. Paragraphe 3. De même, ici, comme dans une foule d'autres cas, il ne faut pas confondre le bonheur avec les choses sans lesquelles on ne saurait être heureux. Paragraphe 4. Il y a de ces conditions qui ne sont point spéciales à la santé non plus qu'à la vie heureuse, mais qui sont en quelque sorte communes à toutes les manières d'être, à tous les actes, sans exception. Il est par trop clair que sans les fonctions organiques de respirer, de veiller, de nous mouvoir, nous ne saurions sentir ni bien ni mal. À côté de ces conditions générales, il y en a qui sont spéciales à chaque nature d'objet et qu'il importe de ne pas méconnaître. Et pour revenir à la santé, les fonctions que je viens de citer sont bien autrement essentielles que la condition de manger de la viande ou de se promener après dîner. Paragraphe 5. C'est tout cela qui fait qu'on agite tant de questions sur le bonheur et qu'on se demande ce qu'il est et comment on peut se l'assurer. Car il y a des gens qui prennent pour des parties constitutives du bonheur les choses sans lesquelles le bonheur serait impossible. Chapitre 3. Sommaire. Des théories antérieures. Il ne faut pas tenir compte des opinions du vulgaire. Il ne faut étudier que celle des sages. Il est plus conforme à la raison et plus digne de Dieu de croire que le bonheur dépend des efforts de l'homme plutôt que de croire qu'il est le résultat du hasard ou de la nature. Paragraphe 1. Il serait fort inutile d'examiner une à une toutes les opinions émises à ce sujet. Les idées qui passent par la tête des enfants, des malades ou des hommes pervers ne méritent pas l'attention d'un esprit sérieux. Il n'est que faire de raisonner avec eux. Mais les uns n'ont besoin que de quelques années de plus qui les changent et les mûrissent. Les autres ont besoin du secours de la médecine ou de la politique qui les guérit ou les châtie. Car la guérison que procurent les châtiments n'est pas un remède moins efficace que ceux de la médecine. Paragraphe 2. De même non plus, il ne faut pas, en ce qui regarde le bonheur, considérer les opinions du vulgaire. Le vulgaire parle de tout avec une égale légèreté, et particulièrement de... Ici un blanc. Il ne faut tenir compte que de l'opinion des sages. Ce serait un tort que de raisonner avec des gens qui n'entendent pas la raison et qui n'écoutent que la passion qui les entraîne. Paragraphe 3. Du reste, comme tout sujet d'étude soulève des questions qui lui sont entièrement spéciales, et qu'il y en a aussi de ce genre en ce qui regarde la vie la meilleure que l'homme puisse suivre et l'existence qu'il peut adopter, préférablement à toutes les autres, voilà les opinions qui méritent un sérieux examen. Car les arguments des adversaires, quand on les a réfutés, sont les démonstrations des jugements opposés aux leurs. Paragraphe 4. De plus, il est bon de ne pas oublier le but auquel, principalement, doit tendre toute cette étude, à savoir de connaître les moyens de s'assurer une existence bonne et belle, si l'on ne veut pas dire parfaitement heureuse, mot qui peut sembler trop ambitieux, et de satisfaire l'espérance qu'on peut avoir, dans toutes les occasions de la vie, de ne faire que des choses honnêtes. Paragraphe 5. Si l'on ne fait du bonheur que le résultat du hasard ou de la nature, il faut que la plus grande partie des hommes y renonce, car alors l'acquisition du bonheur ne dépend plus des soins de l'homme. Il ne relève plus de lui. L'homme n'a plus à s'en occuper lui-même. Si, au contraire, on admet que les qualités et les actes de l'individu peuvent décider de son bonheur, dès lors, il devient un bien plus commun parmi les hommes, et même un bien plus divin. Plus commun, parce qu'un plus grand nombre pourront l'obtenir, plus divin, parce qu'il sera la récompense des efforts que les individus auront faits pour acquérir certaines qualités, et le prix des actions qu'ils auront accomplies dans ce but. Chapitre 4. Sommaire. Définition du bonheur. Des divers genres de vie où la question du bonheur n'est point impliquée. Il y a trois genres de vie que l'on embrasse quand on est maître de choisir à son gré. La vie politique, la vie philosophique et la vie de plaisir, de jouissance. Réponse et opinion d'Anaxagore sur le bonheur. Paragraphe 1. La plupart des doutes et des questions qu'on soulève ici seront clairement résolus si l'on définit d'abord avec précision ce qu'il faut entendre par le bonheur. Consiste-t-il uniquement dans une certaine disposition de l'âme, ainsi que l'ont cru quelques sages et quelques anciens philosophes? Ou bien ne suffit-il pas que l'individu lui-même soit moralement d'une certaine façon? Et ne faut-il pas bien plutôt encore qu'il fasse des actions d'une certaine espèce. Paragraphe 2. Parmi les divers genres d'existence, il y en a qui n'ont rien à voir dans cette question de la félicité, et qui n'y prétendent même pas. On ne les cultive que parce qu'ils répondent à des besoins absolument nécessaires. Et je veux dire, par exemple, toutes ces existences consacrées aux arts de luxe, aux arts qui ne s'occupent que d'amasser de l'argent, et les arts industriels. J'appelle arts de luxe et inutiles les arts qui ne servent qu'à la vanité. J'appelle industriels les métiers des ouvriers qui sont sédentaires et vivent des salaires qu'ils gagnent. Enfin, les arts de lucre et de gain sont ceux qui s'appliquent aux ventes et aux achats des boutiques et des marchés. De même, donc, que nous avons indiqué trois éléments du bonheur et signalé plus haut ces trois biens comme les plus grands de tous pour l'homme, la vertu, la prudence et le plaisir. De même, aussi, nous voyons qu'il y a trois genres de vie que chacun embrasse de préférence dès qu'il en a le libre choix. La vie politique, la vie philosophique et la vie de plaisir et de jouissance. Paragraphe 3. La vie philosophique ne s'applique qu'à la sagesse et à la contemplation de la vérité. La vie politique s'applique aux belles et glorieuses actions. Et j'entends par là celles qui viennent de la vertu. Enfin, la vie de jouissance se passe tout entière dans les plaisirs du corps. Ceci doit faire comprendre pourquoi il y a tant de différences, comme je l'ai déjà dit, dans les idées qu'on se fait du bonheur. Paragraphe 4. On demandait à Anaxagore de Clazomène quel était, suivant lui, l'homme le plus heureux. « Ce n'est aucun de ceux que vous supposez, répondit-il. Et le plus heureux des hommes, selon moi, vous semblerait probablement un homme bien étrange. » Le sage répondait ainsi parce qu'il voyait bien que son interlocuteur ne pouvait pas s'imaginer qu'on dût mériter cette appellation d'heureux, sans être, tout au moins, puissant, riche ou beau. Quant à lui, il pensait peut-être que l'homme qui accomplit avec pureté et sans peine tous les devoirs de la justice, ou qui peut s'élever à quelque contemplation divine, est aussi heureux que le permet la condition humaine. Chapitre 5. Sommaire. Des misères de la vie humaine. Il vaudrait mieux ne pas vivre. Belle réponse d'Anaxagore. Opinions diverses des hommes sur le bonheur. La vertu et la sagesse sont les éléments indispensables du bonheur. Erreur de Socrate, qui croyait que la vertu est une science. La vertu consiste essentiellement dans la pratique. Paragraphe 1. Il est une foule de choses où il est très difficile de bien juger. Mais c'est surtout dans une question où il semble qu'il est très aisé et du domaine de tout le monde d'avoir une opinion. Et cette question, c'est de savoir quel est le bien qu'on doit choisir dans la vie et dont la possession comblerait tous nos vœux. Il y a 1000 accidents qui peuvent compromettre la vie de l'homme. Les maladies, les douleurs et les intempéries des saisons. Et par conséquent, si dès le principe on avait le choix, on s'éviterait sans nul doute de passer par toutes ces épreuves. Paragraphe 2. Ajoutez à cela la vie que l'homme mène tout le temps qu'il est enfant. Et demandez-vous s'il est un être raisonnable qui voulut s'y plier une seconde fois. Paragraphe 3. Il est encore bon nombre de choses qui n'offrent ni plaisir ni peine, ou bien qui, en offrant du plaisir, n'offrent qu'un plaisir assez honteux, et qui, somme toute, sont telles qu'il vaudrait mieux ne pas être que de vivre pour les éprouver. Paragraphe 4. En un mot, si l'on réunissait tout ce que font les hommes et tout ce qu'ils souffrent, sans que leur volonté y soit jamais pour rien, ou puisse s'y proposer un but précis, et qu'on y ajoutât même une durée infinie de temps, il n'en est pas un qui, pour si peu, préféra de vivre plutôt que de ne pas vivre. Paragraphe 5. Certainement le seul plaisir de manger, ou même les jouissances de l'amour, à l'exclusion de tous ces plaisirs que la connaissance des choses, les perceptions de la vue ou des autres sens peuvent procurer à l'homme, ne suffirait pas pour faire préférer la vie à qui que ce soit, à moins qu'on ne fût tout à fait abruti et dégradé. Paragraphe 6. Il est vrai que si l'on faisait un choix aussi ignoble, c'est qu'on ne mettrait évidemment aucune différence à être une brute ou un homme. Et le bœuf, qu'on adore si dévotement en Égypte sous le nom d'Apis, a tous ces biens-là plus abondamment et en jouit mieux qu'aucun monarque du monde. Paragraphe 7. De même, on ne voudrait pas non plus la vie pour le simple plaisir d'y dormir. Car, je vous prie, quelle différence y a-t-il à dormir du premier jour jusqu'au dernier pendant une suite de 1000 années et plus, ou de vivre comme une plante? Les plantes n'ont que cette existence inférieure comme l'ont aussi les enfants dans le sein maternel. Car du moment qu'ils sont conçus dans les entrailles de leur mère, ils y demeurent dans un perpétuel sommeil. Paragraphe 8. Tout ceci nous prouve évidemment notre ignorance et notre embarras, à savoir ce qu'il y a de bonheur et de bien réel dans la vie. Paragraphe 9. Aussi, dit-on, qu'Anaxagore répondit à quelqu'un qui lui proposait tous ses doutes et qui lui demandait quel motif aurait l'homme de préférer l'existence au néant. Son motif, c'est de pouvoir contempler les cieux et l'ordre admirable de l'univers entier. Le philosophe pensait donc que l'homme ferait bien de préférer la vie uniquement en vue de la science qu'il y peut acquérir. Paragraphe 10. Mais ceux qui admirent le bonheur d'un sardanapale, d'un smindyride le sybarite, ou de tel autre personnage fameux qui n'a cherché dans la vie que de continuelles délices, tous ces gens-là semblent placer le bonheur uniquement dans la jouissance. Paragraphe 11. Il y en a d'autres qui ne préférerait ni les plaisirs de la pensée et de la sagesse, ni les plaisirs du corps aux actions généreuses qu'inspire la vertu. Et l'on en voit même qui les recherchent avec ardeur, non pas seulement quand elles peuvent donner la gloire, mais dans les cas même où ils n'en doivent tirer aucune réputation. Paragraphe 12. Mais quant aux hommes d'État livrés à la politique, la plupart ne méritent pas véritablement le nom qu'on leur donne. Ce ne sont pas réellement des politiques, car le vrai politique ne recherche les belles actions que pour elles seules, tandis que le vulgaire des hommes d'État n'embrasse ce genre de vie que par avidité ou par ambition. Paragraphe 13. On voit donc, d'après tout ce qu'on vient de dire, qu'en général, les hommes ramènent le bonheur à trois genres de vie. La vie politique, la vie philosophique et la vie de jouissance. Quant au plaisir, qui ne concerne que le corps et les jouissances qu'il procure, on sait assez clairement ce qu'il est, comment et par quels moyens il se produit. En conséquence, il serait assez inutile de rechercher ce que sont ces plaisirs corporels. Mais on peut se demander, avec quelque profit, s'ils contribuent ou non au bonheur, et comment ils y contribuent. On peut se demander, en admettant qu'il faille mêler à la vie quelques plaisirs honnêtes, si ce sont ceux-là qu'il y faut mêler, et s'il y a une nécessité inévitable de les prendre à quelque autre titre, ou bien s'il n'y a point encore d'autres plaisirs qu'on puisse regarder avec raison comme un élément du bonheur, en donnant des jouissances positives à sa vie, et non pas seulement en écartant la douleur loin de soi. Paragraphe 14. Ce sont là des questions que nous réserverons pour plus tard. Mais nous étudierons d'abord la vertu et la prudence. Nous dirons quelle est la nature de l'une et de l'autre. Nous examinerons si elles sont les éléments essentiels de la vie honnête et bonne, ou par elles-mêmes directement, ou par les actes qu'elles font faire. Car on les fait entrer toujours dans la composition du bonheur. Et, si ce n'est pas là l'opinion de tous les hommes sans exception, c'est, du moins, l'opinion de tous ceux qui sont dignes de quelque estime. Paragraphe 15. Le vieux Socrate pensait que le but suprême de l'homme, c'était de connaître la vertu. Et il consacrait ses efforts à chercher ce que c'est que la justice, le courage et chacune des parties qui composent l'ensemble de la vertu. À son point de vue, il avait raison, puisqu'il pensait que toutes les vertus sont des sciences et qu'on devait, du même coup, connaître la justice et être juste, comme c'est aussi, du même coup, que nous apprenons l'architecture ou la géométrie et que nous sommes architectes ou géomètres. Il étudiait donc la nature de la vertu sans s'inquiéter comment elle s'acquiert ni de quels éléments réels elle se forme. Paragraphe 16. Ceci se présente en effet dans toutes les sciences purement théoriques. Ainsi, l'astronomie, la science de la nature, la géométrie, n'ont point absolument d'autre but que de connaître et d'observer la nature des objets spéciaux de ces sciences. Ce qui n'empêche pas qu'indirectement, ces sciences ne puissent nous être utiles pour une foule de besoins. Paragraphe 17. Mais, dans les sciences productives et d'application, et de la simple connaissance. Paragraphe 17. Mais, dans les sciences productives et d'application, le but qu'elles poursuivent est différent de la science et de la simple connaissance qu'elles donnent. Par exemple, la santé, la guérison, est le but de la médecine. L'ordre, garanti par les lois, ou quelque autre chose d'analogue, est le but de la politique. Paragraphe 18. Sans doute, la pure connaissance des belles choses est déjà une chose fort belle par elle seule. Mais pour la vertu, le point essentiel et le plus précieux, ce n'est pas d'en connaître la nature, c'est de savoir d'où elle se forme et comment on la pratique. Nous ne tenons pas seulement à savoir ce que c'est que le courage. Nous tenons surtout à être courageux. Ni ce que c'est que la justice, mais à être juste. De même que nous tenons à la santé, plus qu'à savoir ce que c'est que la santé, et à posséder un bon tempérament, plutôt qu'à savoir ce que c'est qu'un tempérament bon et robuste. Chapitre 6. Sommaire. De la méthode à suivre dans ses recherches. Utilité de la théorie et du raisonnement. Mais il faut les appuyer par des faits et par des exemples. Cette méthode est utile même en politique. Danger des digressions et des généralités. Il faut tout ensemble critiquer la méthode et les résultats qu'elle donne. Citation des analytiques. Paragraphe 1. Nous devons essayer de trouver, par la théorie et par le raisonnement, la vérité sur toutes ces questions. Et nous l'appuierons pour la démontrer par le témoignage des faits et par des exemples incontestables. Le mieux serait sans contredit de donner des solutions que tout le monde adopta d'un avis unanime. Mais si nous ne pouvons obtenir cet assentiment, il faudrait du moins présenter une opinion à laquelle tous les hommes, avec quelques progrès, viendraient peu à peu se ranger. Car chacun porte en soi un penchant naturel et spécial vers la vérité. Et c'est en partant de ces principes qu'il faut nécessairement démontrer aux hommes ce qu'on veut leur apprendre. Il suffit que les choses soient vraies, bien que d'abord elles ne soient pas claires, pour que la clarté se produise plus tard à mesure qu'on avance, en tirant toujours les idées les plus connues de celles qui, d'abord, avaient été exposées confusément. Paragraphe 2. Mais, en toute matière, les théories ont plus ou moins d'importance, selon qu'elles sont philosophiques ou ne le sont pas. C'est pour cela que, même en politique, on ne doit pas regarder comme une étude inutile de rechercher non pas seulement le fait, mais la cause. Car cette recherche de la cause est essentiellement philosophique, en quelque matière que ce soit. Paragraphe 3. Il faut, du reste, en ceci beaucoup de réserve. Il y a des gens qui, sous prétexte qu'il appartient aux philosophes de ne jamais parler à la légère, mais toujours avec réflexion, ne s'aperçoivent pas qu'ils sont bien souvent en dehors de leur sujet et qu'ils se livrent à des digressions parfaitement vaines. Paragraphe 4. Parfois, c'est simple ignorance, d'autres fois, c'est présomption. Et il arrive même qu'à ces pièges-là, des gens habiles et fort capables d'agir eux-mêmes sont pris par des ignorants qui n'ont et ne peuvent avoir sur le sujet discuté la moindre idée fondamentale ni pratique. Paragraphe 5. La faute qu'ils commettent tient à ce qu'ils ne sont pas assez instruits, car c'est manquer d'instruction sur un sujet quelconque que de ne pas savoir distinguer les raisonnements qui s'y rapportent réellement et ceux qui y sont étrangers. Paragraphe 6. D'ailleurs, on fait bien de juger séparément et le raisonnement qui essaie de démontrer la cause et la chose elle-même qu'on démontre. Un premier motif, c'est celui que nous venons de dire, à savoir qu'il ne faut pas s'en fier à la théorie et au raisonnement tout seul, et que souvent, il faut bien davantage s'en rapporter aux faits. Mais ici, c'est parce qu'on ne peut pas soi-même donner la solution cherchée qu'on est bien forcé de s'en tenir à ce que l'on vous dit. En second lieu, il arrive plus d'une fois que ce qui paraît démontré par le simple raisonnement est vrai, mais ne l'est pas cependant par la cause sur laquelle ce raisonnement s'appuie. Car on peut démontrer le vrai par le faux, ainsi qu'on peut le voir dans les analytiques. Chapitre 7. Sommaire du bonheur. On convient que c'est le plus grand des biens accessibles à l'homme. L'homme seul, en dehors de Dieu, peut être heureux. Les êtres inférieurs à l'homme ne peuvent jamais être appelés heureux. Paragraphe 1. Tous ces préliminaires posés. Commençons, comme on dit, par le commencement, c'est-à-dire en partant d'abord de données qui n'ont pas toute la clarté désirable. Arrivons à savoir aussi clairement que possible ce que c'est que le bonheur. Paragraphe 2. On convient généralement que le bonheur est le plus grand et le plus précieux de tous les biens qui peuvent appartenir à l'homme. Quand je dis à l'homme, j'entends que le bonheur pourrait être aussi le partage d'un être supérieur à l'humanité, c'est-à-dire de Dieu. Paragraphe 3. Mais quant aux autres animaux, qui sont tous inférieurs à l'homme, ils ne peuvent jamais en rien participer à cette désignation ni recevoir ce nom. On ne dit pas que le cheval, l'oiseau, le poisson sont heureux, pas plus qu'aucun de ces êtres qui n'ont point dans leur nature, comme leur nom seul l'indique, quelque chose de divin, mais qui vivent d'ailleurs plus ou moins bien, en ayant leur part en quelque autre matière des biens répandus dans le monde. Paragraphe 4. Nous prouverons plus tard qu'il en est ainsi. Mais nous nous bornons maintenant à dire que pour l'homme, il y a certains biens qu'il peut acquérir et qu'il en est d'autres qui lui sont interdits. Nous entendons par là que, de même que certaines choses ne sont point sujettes au mouvement, de même, il y a des biens qui ne peuvent pas non plus y être soumis. Et ce sont peut-être les plus précieux de tous par leur nature. Il est, en outre, quelques-uns de ces biens qui sont accessibles, sans doute, mais qui ne le sont que pour des êtres meilleurs que nous. Paragraphe 5. Quand je dis accessible, praticable, ce mot a deux sens. Il signifie tout ensemble, et les objets qui sont le but direct de nos efforts, et les choses secondaires qui sont comprises dans notre action en vue de ces objets. Ainsi, la santé, la richesse sont placées au nombre des choses accessibles à l'homme, au nombre des choses que l'homme peut faire, de même qu'y est placé aussi tout ce qu'on fait pour atteindre ces deux buts, à savoir les remèdes et les spéculations lucratives de tout genre. Donc, évidemment, le bonheur doit être regardé comme la chose la plus excellente qu'il soit donné à l'homme de pouvoir obtenir. Chapitre 8. Sommaire du bien suprême. Examen de trois théories principales sur cette question. Réfutation de la théorie du bien en soi et de la théorie générale des idées. Elles ne peuvent servir en rien à la vie pratique. Le bien se retrouve dans toutes les catégories. Il y a autant de sciences du bien qu'il y a de sciences de l'être. Méthode inexacte pour démontrer le bien en soi. La politique ainsi que la morale étudient et poursuivent un bien qui leur est propre. Paragraphe 1. Il faut donc examiner quel est le bien suprême et voir En combien de sens on peut entendre ce mot? Il y a ici trois opinions principales. On dit, par exemple, que le bien suprême, le meilleur de tous les biens, c'est le bien lui-même, le bien en soi. Et au bien en soi, on attribue ces deux conditions, d'être le bien primordial, le premier de tous les biens, et d'être cause par sa présence que les autres choses deviennent aussi des biens. Paragraphe 2. Telles sont les deux conditions que remplit l'idée du bien, et qui sont, je le répète, d'être le premier des biens, et par sa présence, d'être cause que les autres choses deviennent aussi des biens. Paragraphe 2. Telles sont les deux conditions que remplit l'idée du bien, et qui sont, je le répète, d'être le premier des biens, et par sa présence, d'être cause que les autres choses soient des biens à différents degrés. C'est d'après l'idée surtout que le bien en soi, à ce qu'on prétend, doit s'appeler réellement le bien suprême et qu'il est le premier des biens. Car si les autres biens sont appelés des biens, c'est uniquement parce qu'ils ressemblent et participent à cette idée du bien en soi. Et une fois qu'on a détruit l'idée dont le reste participe, on a détruit du même coup tout ce qui participe de cette idée et ne reçoit un nom que de cette participation même. Paragraphe 3. On ajoute que ce premier bien est aux autres biens qui le suivent dans ce rapport que l'idée du bien est le bien lui-même, le bien en soi, et que cette idée est séparée, comme toutes les autres idées, des objets qui en participent. Paragraphe 4. Mais l'examen approfondi de cette opinion appartient à un autre traité, qui serait nécessairement beaucoup plus théorique et plus rationnel que celui-ci, car il n'y a point d'autre science qui fournisse les arguments tout à la fois destructifs et communs pour réfuter les théories. Paragraphe 5. S'il nous est permis d'exprimer ici très brièvement notre pensée, nous dirons que soutenir qu'il y a une idée, non seulement du bien mais de toute autre chose, c'est une théorie purement logique et parfaitement creuse. On l'a, du reste, suffisamment réfutée, et de beaucoup de manières, soit dans les ouvrages exotériques, soit dans les ouvrages de pure philosophie. Paragraphe 6. J'ajoute que les idées en général et l'idée du bien en particulier auraient beau exister tant qu'on le voudrait, elles ne seraient certainement d'aucune utilité ni pour le bonheur, ni pour les actions vertueuses. Paragraphe 7. Le bien se prend en une foule d'acceptions, et il en reçoit autant que l'être lui-même. L'être, d'après les divisions établies ailleurs, exprime la substance, la qualité, la quantité, le temps, et il se retrouve en outre dans le mouvement qui est subi et dans le mouvement qui est donné. Le bien se retrouve également dans chacune de ces catégories diverses. Et ainsi, dans la substance, le bien est l'entendement, le bien est Dieu. Dans la qualité, il est le juste. Dans la quantité, c'est le terme moyen et la mesure. Dans le temps, c'est l'occasion. Et dans le mouvement, c'est, si l'on veut, ce qui instruit et ce qui est instruit. Paragraphe 8. De même donc que l'être n'est pas un dans les classes qu'on vient d'énoncer, de même, le bien n'y est pas un non plus. Et il n'y a pas davantage une science unique de l'être ni du bien. Il faut ajouter qu'il n'appartient pas même à une science unique d'étudier tous les biens d'appellation identique, par exemple l'occasion et la mesure, et que c'est une science différente qui doit étudier une occasion différente, une science différente qui doit étudier une mesure différente. Ainsi, en fait d'alimentation, c'est ou la médecine ou la gymnastique qui désigne l'occasion ou le moment et la mesure. Pour les actions de guerre, c'est la stratégie. Et c'est de même une autre science qui règle une autre action. Ce serait donc perdre son temps que de vouloir attribuer à une seule science l'étude du bien en soi. Paragraphe 9. En outre, dans toutes les choses où il y a un premier et un dernier terme, il n'y a pas d'idée commune en dehors de ces termes, et qui en soient tout à fait séparés. Paragraphe 10. Autrement, il y aurait quelque chose d'antérieur au premier terme lui-même, car ce quelque chose de commun et de séparé serait antérieur, puisque, si l'on détruisait le commun, le premier terme serait aussi détruit. Supposons, par exemple, que le double soit le premier des multiples. Je dis qu'il est impossible que le multiple, qui est attribué en commun à cette foule de termes, existe séparément de ces termes. Car alors, le multiple serait antérieur au double, s'il est vrai que l'idée soit l'attribution commune, absolument, comme si l'on donnait à ce terme commun une existence à part. Car, si la justice est le bien, le courage ne le sera pas moins qu'elle. Paragraphe 11. On n'en soutient pas moins la réalité du bien en soi. Il est vrai qu'on ajoute au mot du bien le mot lui-même ou en soi, et qu'on dit le bien en soi, le bien lui-même. Et c'est une addition pour représenter la notion commune. Mais que peut signifier cette addition si elle ne veut pas dire que le bien en soi est éternel et séparé? Mais ce qui est blanc pendant plusieurs jours n'est pas plus blanc que ce qu'il est durant un seul jour. Et l'on ne peut pas davantage confondre le bien qui est commun à une multitude de termes avec l'idée du bien. Car l'attribut commun appartient à tous les termes sans exception. Paragraphe 12. En admettant cette théorie, il faudrait, du moins, démontrer le bien en soi tout autrement qu'on ne l'a démontré de notre temps. C'est en partant de choses dont on ne convient pas du tout qu'elles soient des biens qu'on démontre des biens sur lesquels tout le monde est d'accord. Et par exemple, on démontre à l'aide de nombres que la santé et la justice sont des biens. On prend, pour cette démonstration, des séries numériques et des nombres. En supposant gratuitement que le bien est dans les nombres et dans les unités, attendu que le bien en soi est un et partout le même. Paragraphe 13. Au contraire, c'est en partant de choses que tout le monde s'accorde à regarder comme des biens, la santé, la force, la sagesse, qu'il faudrait démontrer que le beau et le bien se trouvent dans les choses immobiles plutôt que partout ailleurs. Car tous ces biens ne sont qu'ordre et repos. Et si ces premières choses, c'est-à-dire la santé et la sagesse, sont des biens, les autres le sont encore davantage, parce qu'elles ont bien davantage d'ordre et de repos. Paragraphe 14. Mais ce n'est qu'une image au lieu d'une démonstration quand on prétend que le bien en soi est un, parce que les nombres eux-mêmes le désirent. On serait fort embarrassé d'expliquer clairement comment des nombres désirent quelque chose. C'est là, évidemment, une expression trop absolue. Et je le demande, comment pourrait-on supposer qu'il y ait désir là où il n'y a pas même de vie? Paragraphe 15. C'est un sujet, d'ailleurs, qui exige qu'on se donne de la peine. Et il ne faut rien hasarder sans raisonnement à l'appui dans des matières où il n'est pas facile d'arriver à quelque certitude, même à l'aide de la raison. Il n'est pas non plus exact de dire que tous les êtres sans exception désirent un seul et même bien. Chacun des êtres ne désire tout au plus que le bien qui leur est propre, comme l'œil désire la vision, comme le corps désire la santé, et comme tel autre être désire tel autre bien. Paragraphe 16. Voilà les objections qu'on pourrait élever pour faire voir que le bien en soi n'existe pas. Et qu'existe-t-il ? Il ne serait pas le moindre du monde utile à la politique. Car la politique poursuit un bien qui lui est spécial, comme toutes les autres poursuivent aussi le leur. Et par exemple, c'est la santé et la force corporelle que poursuit la gymnastique. Paragraphe 17. Ajoutez encore ce qui est exprimé, ce qui est écrit dans la définition même, à savoir que cette idée du bien en soi ou n'est utile à aucune science, ou bien qu'elle doit l'être à toutes également. Paragraphe 18. Une autre critique, c'est que l'idée du bien en soi n'est point pratique et applicable, par la même raison, le bien commun n'est pas le bien en soi, puisqu'alors le bien en soi se trouverait dans le bien le plus futile. Il n'est pas non plus applicable et pratique. Ainsi, la médecine ne s'occupe pas de donner à l'être qu'elle soigne une disposition qu'ont tous les êtres. Elle s'occupe uniquement de lui donner la santé. Et tous les autres arts agissent comme elle. Paragraphe 19. Mais ce mot de bien a beaucoup de sens. Et dans le bien, il y a aussi le beau et l'honnête, qui est essentiellement pratique, tandis que le bien en soi ne l'est pas. Le bien pratique est celui qui est la cause finale pour laquelle on agit. Mais on ne voit pas assez évidemment quel bien il peut y avoir dans les choses immobiles, puisque l'idée du bien n'est pas le bien même qu'on cherche, non plus que le bien commun. Le premier est immobile et n'est pas pratique. L'autre est mobile, mais il n'est pas plus pratique pour cela. Paragraphe 20. Le but en vue duquel on fait tout le reste est, en tant que fin, le bien suprême. Il est la cause de tous les autres biens classés au-dessous de lui, et il leur est antérieur à tous. Par conséquent, on pourrait dire que le bien en soi est uniquement le but final que se proposent toutes les actions de l'homme. Or, ce but final dépend de la science souveraine, maîtresse de toutes les autres, c'est-à-dire la politique, l'économique et la sagesse. C'est précisément par ce caractère spécial que ces trois sciences diffèrent de toutes les autres. Elles ont aussi des différences entre elles, et nous en parlerons plus tard. Paragraphe 21. Il suffirait de la méthode seule qu'on est forcé de prendre en enseignant les choses pour montrer que le but final est la vraie cause de tous les termes classés au-dessous de lui. Ainsi, dans l'enseignement, on commence par définir le but et l'on démontre ensuite facilement que chacun des termes inférieurs est un bien, puisque c'est l'objet qu'on a finalement en vue qui est la cause de tout le reste. Par exemple, si l'on a d'abord établi que la santé est précisément telle ou telle chose, il faut nécessairement que ce qui contribue à la procurer soit aussi telle ou telle chose précisément. La chose saine est bien la cause de la santé en tant que commençant le mouvement qui nous la donne. Et par conséquent, elle est la cause que la santé a lieu. Mais ce n'est pas elle qui est cause que la santé soit un bien. Paragraphe 22. Aussi ne prouve-t-on jamais par des démonstrations en règle que la santé est un bien, à moins qu'on ne soit un sophiste et qu'on ne soit pas un médecin, car les sophistes aiment à étaler leur vaine sagesse dans les raisonnements étrangers au sujet. Et l'on ne démontre pas plus ce principe qu'on n'en démontre aucun autre. Mais, puisque nous admettons que la fin, le but, est pour l'homme un bien réel et même le bien suprême, entre tous ceux que l'homme peut acquérir, il faut voir quelles sont les divers sens de ce mot de bien suprême. Et pour nous en rendre un compte exact, il convient de prendre un nouveau point de départ. Fin du livre premier.